VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
République démocratique du Congo, le patron de l'OMS appelle à plus de vigilance malgré la stabilisation de l'épidémie d'Ebola.
La Cour pénale internationale ordonne la libération sous condition de l'ancien chef rebelle et ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba.
Au Mali, l'armée a annoncé hier avoir neutralisé 10 terroristes dans un accrochage à Karakindé, dans la région de Mopti.
Au Burkina Faso, suspension jusqu'au 14 juin du procès du putsch manqué de septembre 2015.
En Côte d'Ivoire, appel du groupe français Orange aux forces de l'ordre après un nouveau sabotage de ses installations.
En Corée du Nord, première réaction généralement optimiste après le sommet historique Trump-Kim Jong-un de Singapour.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier à renforcer la vigilance concernant l'épidémie de la maladie à virus Ebola, et ce malgré la stabilisation constatée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Cet appel intervient à la fin d'une visite de 3 jours. Des détails avec John Lyndon.
Sur la base des statistiques, on peut voir que la situation se stabilise, mais la guerre n'est pas finie. Il faut continuer à renforcer la vigilance et la surveillance, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS à Kinshasa, lors d'une conférence de presse avant son départ pour l'Éthiopie. La maladie Ebola n'est pas finie avant d'être vraiment finie parce qu'un cas dans un milieu urbain peut encore déclencher l'épidémie, a-t-il ajouté, se réjouissant d'avoir franchi le cap de plus de 2000 personnes vaccinées dans la province de l'Équateur. En Mbandaka, ville de 1,2 million d'habitants, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 12 mai et à Bikoro, localité à l'origine de la maladie, aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis le 13 mai. Le dernier cas enregistré a été signalé le 6 juin à Itibo, un village proche de Bikoro. L'épidémie d'Ebola avait été déclenchée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et à 600 km de Kinshasa, dans la province de l'Équateur, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976.
L'ancien leader rebelle congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison, a été libéré sous condition mardi après son acquittement en appel par la Cour pénale internationale. En mars 2016, jugé responsable des atrocités commises par ses hommes en Centrafrique en 2002 et 2003, il avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Nous reviendrons sur la libération de Bemba dans la seconde partie de cette édition.
Au Mali, l'armée a annoncé hier avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre, une région particulièrement touchée par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Lors d'un accrochage à Karakindé, dans la région de Mopti, les militaires maliens ont également récupéré de l'armement, des engins explosifs et autres matériels de guerre, selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiena Koulibaly. Sur place, dans la localité de Koro, aucune information sur les circonstances de cet accrochage n'était disponible de sources indépendantes.
Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu mardi jusqu'au 14 juin pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. Deux accusés, dont l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré, se sont retrouvés sans conseil après le départ de leurs avocats. Face à la volonté du président du tribunal militaire Seydou Ouédraogo d'entamer malgré tout le procès dans son fond, les autres avocats ont souhaité un renvoi, le temps de trouver de nouveaux défenseurs. Au total, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.
En Côte d'Ivoire, le groupe français Orange, principal opérateur de la téléphonie mobile du pays, a dénoncé hier un nouveau sabotage de ses installations, après celui intervenu à la mi-mai. Ces incidents ont entraîné des dysfonctionnements importants, causant l'indisponibilité des services Internet. Orange a appelé à l'aide des forces de l'ordre afin que, je cite, « trouver des solutions concrètes et durables soient trouvées pour sécuriser le réseau qui dessert des services indispensables à la population et aux services d'urgence, pompiers, hôpitaux, aide médicale d'urgence ».
En Guinée-Bissau, grève depuis hier de la fonction publique, certains patients ont déjà commencé à abandonner l'hôpital national Shimaon Mendes, le principal centre hospitalier du pays. Notre correspondant Noah Mankali fait le point.
L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau, UNTG, a entamé ce mardi la deuxième vague de grève de 3 jours dans le but d'obliger le gouvernement d'Aristide Gomis à se conformer au réajustement des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne. Une grève générale convoquée par le central syndical n'a pas atteint les secteurs du transport et du commerce, mais aussi de l'éducation nationale. On précise que ce début de grève de 3 jours a commencé à se faire sentir négativement au niveau du principal centre hospitalier du pays. Je rappelle que l'une des raisons de la grève serait la non-conformité avec certains points de revendication du central syndical, à savoir la question de l'augmentation des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne, mais aussi la mise en œuvre d'une nouvelle grille salariale, entre autres. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
L'organisation Reporters sans frontières demande aux autorités tanzaniennes d'abroger leur loi sur le contenu en ligne. Le point avec Marie Benson.
La mesure mise en œuvre depuis lundi par l'autorité tanzanienne de régulation de la communication affecte en particulier Jamii Forum, l'un des sites les plus populaires dans le pays et qui compte plus d'un demi-million d'abonnés sur Twitter. Le gouvernement tanzanien a suspendu cette plateforme d'information, notamment parce qu'elle refuse de divulguer l'identité de ses sources aux autorités. Par ailleurs, Jamii Forum doit s'acquitter d'une licence coûtant $900 par an pour fonctionner. Ceux qui ne suivront pas cette règle risqueront la prison et une lourde amende. Selon le responsable du bureau Afrique de RSF, le gouvernement tanzanien ne veut pas que les médias publient les voix critiques sur leur site. Depuis l'arrivée au pouvoir du président John Magufuli, des journaux critiques ont été fermés, accusés de propos hostiles au gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Première réaction essentiellement optimiste en Corée du Nord après le sommet que le président américain Donald Trump vient d'avoir à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Selon l'agence de presse d'État de Pyongyang, messieurs Trump et Kim Jong-un reconnaissent ensemble qu'il est important de respecter le principe d'une approche par étapes et d'actions simultanées pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. L'agence a par ailleurs cité directement Kim Jong-un, disant que si les États-Unis prennent des mesures sincères de construction de la confiance, il prendra lui-même de nouvelles mesures de bonne volonté à la hauteur de ses actions américaines. Aucun détail n'a été donné à ce sujet.
Kim Jong-un a également déclaré qu'il est urgent que les États-Unis et la Corée du Nord prennent des mesures courageuses pour arrêter les actions militaires hostiles d'un côté comme de l'autre, tout en mentionnant la promesse du président Trump d'arrêter les manœuvres militaires avec la Corée du Sud. L'agence de presse nord-coréenne a aussi mentionné que Kim Jong-un a invité Donald Trump à visiter la Corée du Nord et que le président américain l'a de son côté invité à Washington, ajoutant que tous les deux ont accepté ces invitations, considérées comme une autre occasion importante d'améliorer les relations. Le monde a fait un grand pas qui l'éloigne d'une potentielle catastrophe nucléaire. Plus de lancements de fusées, d'essais ou de recherches nucléaires, a écrit M. Trump dans un tweet, sans confirmer pour l'heure avoir accepté l'invitation à Pyongyang.
Des sénateurs démocrates américains ont dénoncé hier la cruauté des séparations d'enfants et parents migrants en présentant une loi visant à stopper cette mesure renforcée récemment par l'administration Trump pour décourager l'immigration clandestine. Bagasikoura.
Appelons les choses par leur nom, les États-Unis sont en train de violer les droits de l'homme, a acclamé la sénatrice Kamala Harris lors d'une conférence de presse pour présenter cette loi introduite par des sénateurs de la minorité démocrate. Cette pratique était déjà possible sous le président démocrate Barack Obama, mais rarement appliquée. L'administration Trump l'a rendue systématique. Depuis octobre, plusieurs centaines d'enfants ont été séparés de leurs parents à la frontière, selon les Nations Unies. Une mesure de tolérance zéro, légale, selon la Maison-Blanche, qui, depuis début mai, la revendique ouvertement afin de décourager l'immigration illégale. En moyenne, 47 enfants ont été retirés de leurs parents chaque jour pendant une période de 2 semaines en mai, a précisé la sénatrice démocrate Dianne Feinstein en s'appuyant sur des données fournies par la police des frontières à la commission sénatoriale de la justice. Pour l'instant, aucun républicain n'a prévu de soutenir cette proposition de loi qui devrait donc avoir du mal à prospérer. Cet épineux débat agite jusqu'au cœur même de la majorité républicaine qui peine ces jours-ci à trouver un consensus sur une proposition de loi qui réconcilierait modérés et partisans d'une ligne dure.
Qu'est-ce que 629 migrants ballottés en Méditerranée depuis dimanche après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir sont partis mardi soir vers l'Espagne à bord de 3 bateaux, dont le navire humanitaire Aquarius. Ce refus a déclenché une vague d'indignation ou d'approbation dans toute l'Union européenne, mais aussi un échange virulent entre la France et l'Italie qui se sont mutuellement accusés de cynisme. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La dépréciation de la monnaie ghanéenne fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. D'après un cabinet d'études locales, la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers et des fluctuations du dollar américain expliquent cette situation. Fin 2017, la dette extérieure représentait 53%, soit plus de 32 milliards de dollars, ce qui équivaut à près de 79% du produit intérieur brut. La dette libellée en dollars américains représentait 65% du stock de la dette extérieure. En Égypte, le ministre de l'Électricité a annoncé des coupes dans les subventions sur l'électricité à partir du 1er juillet. Conséquence, cette mesure va provoquer une hausse des prix de plus de 26% en moyenne pour l'ensemble des consommateurs, toutes utilisations confondues. Le Caire veut obtenir un prêt de 12 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international FMI et doit aussi dévaluer sa devise locale et instaurer une TVA. Les dommages écologiques pourraient coûter 18% de la production économique mondiale et représentent plus de 28 billions de dollars. Cet impact pourrait être lié à une hausse continue de l'exposition de plusieurs secteurs d'activité clés de l'économie mondiale. Le risque est lié au capital naturel permettant la production de biens et rendant des services écologiques. Le secteur du transport est le plus exposé.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La FIFA va désigner ce mercredi le pays organisateur du Mondial 2026.
Après la validation des 2 candidatures par la Task Force, la commission d'évaluation, le duel entre le Maroc et le trio États-Unis-Canada-Mexique va être départagé par 207 fédérations membres de la FIFA. Inquiet à l'idée d'être éliminé avant de livrer bataille, le Maroc est toujours en lice mais semble partir avec du retard. Son dossier a obtenu une note globale de 2,7/5 contre 4/5 pour le trio États-Unis-Canada-Mexique. 4 fois candidat malheureux à l'organisation du mondial en 94, 98, 2006 et 2010, le Royaume chérifien croit toutefois toujours en ses chances de devenir le second pays du continent africain après l'Afrique du Sud en 2010 à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète.
L'assistance vidéo à l'arbitrage sera prête pour le mondial 2018.
La fameuse VAR a été installée très rapidement mais sera bien prête pour ses débuts lors du mondial russe, d'après le patron de l'arbitrage de la FIFA, Massimo Busacca. Il a indiqué que les actions controversées seront diffusées sur les écrans géants du stade pour que les spectateurs puissent les voir et éventuellement se forger leur opinion.
Il n'y aura pas d'éliminatoire couplé pour la CAN 2021 et le Mondial 2022.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2021 ne seront pas couplés. C'est l'une des résolutions prises par le comité exécutif de la CAF lors de sa réunion à Moscou, en Russie donc, en marge du congrès de la FIFA prévu ce mercredi. Certaines fédérations avaient proposé de coupler les 2 qualifications, comme cela avait été le cas en 2006 et en 2014. Mais la CAF en a décidé autrement.
Transfert, accord de principe entre Monaco et l'Atlético pour Lemar.
L'AS Monaco et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord de principe concernant le transfert de l'international français Thomas Lemar. Arrivé sur le Rocher en 2015, le milieu de terrain de 22 ans était courtisé par de nombreux clubs de Première Ligue. La saison dernière, Liverpool et Arsenal étaient déjà allés jusqu'à offrir la somme de 100 millions d'euros. Il reste 2 ans de contrat à Lemar qui est actuellement en Russie où il prépare la Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour pénale internationale a ordonné la libération sous condition de l'ancien chef rebelle et vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Quel sera son avenir politique? Eh bien, Eddy Sango a posé la question au secrétaire général adjoint de son parti, le Mouvement pour la libération du Congo, le MLC, Fidel Babala.
C'est d'abord une réaction de joie et de soulagement. Après 10 ans de procédure, finalement, notre président recouvre la liberté de son action et de ses mouvements. Je crois que c'est tout ce que nous avions espéré.
Quel sera l'avenir politique de M. Jean-Pierre Bemba maintenant?
Je ne pourrais pas parler en ces lieux et places. Il vient de recouvrer la totalité de ses actions, de sa liberté. Je crois qu'il s'exprimera personnellement sur le sujet quand il choisira le moment opportun. Je pense qu'au niveau de notre parti, l'attente est de voir ce candidat naturel du MLC se mettre en ordre de bataille pour amener le parti ainsi que le pays aux élections. Nous souhaiterions vivement qu'il puisse reprendre ses activités le plus vite possible. Mais bon, la décision lui appartiendra. Il vient de sortir après 10 ans. Je crois que la décence et la logique voudraient qu'on puisse lui laisser le temps de se reconstituer et de retrouver l'intimité de sa famille.
Justement, il n'aura peut-être que 3 semaines avant de prendre la décision. Pensez-vous que c'est suffisant?
Il a le temps. Le temps que le parti puisse se mettre aussi en ordre de bataille en organisant son congrès, je crois que le temps, c'est 2 mois. C'est jusqu'au 17 août qu'on doit pouvoir déposer des candidatures au niveau de la présidentielle.
Ne pensez-vous pas qu'il y ait quelques obstacles juridiques ou politiques à une éventuelle candidature de M. Jean-Pierre Bemba?
Je n'en vois pas dans la mesure où il a été acquitté, donc on avait de tout soupçon. Nous sommes un pays qui tend vers l'état des droits, donc nous devons respecter nos propres textes. Je ne pense pas qu'il y aura un obstacle.
Bien qu'en prison, M. Jean-Pierre Bemba ait été beaucoup consulté, et ceux qui le consultent, et même lui-même, parle d'une candidature unique, commune de l'opposition. Et pensez-vous qu'il serait prêt à soutenir un autre?
Il était le premier à pouvoir défendre cette idée. Vous vous rappelez, il a appelé par le biais d'un courrier à l'unité d'action de l'opposition. Une candidature commune serait la suite logique de ces actions qu'on mènerait ensemble au niveau de l'opposition.
Mais si Jean-Pierre Bemba est sorti de Kinshasa après de violents affrontements entre sa garde et celle du président Joseph Kabila. Et juste après, il y a eu une ouverture d'un dossier judiciaire. Ne craignez-vous pas que ces dossiers puissent être rouverts en l'encontre de votre président?
Non, je ne pense pas. Je crois que l'intérêt des uns et des autres, c'est de pouvoir conduire le pays dans la paix, l'apaisement vers des élections.
Et que reste-t-il aujourd'hui de la force politique de M. Jean-Pierre Bemba et du MLC?
Il y a eu des départs, certes, mais des départs qui n'ont pas atteint la substance, même l'enracinement même du MLC.
Germain Katanga a été libéré à la CPI. Une fois à Kinshasa, il a été arrêté. N'avez-vous pas crainte que cela arrive à votre leader?
Le cas de Jean-Pierre Bemba n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. C'est un cas qui concerne la République centrafricaine.
Fidel Babala, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, le conseil de discipline auprès du Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné cette semaine plusieurs magistrats accusés de manquement à l'éthique et à la déontologie. Eric Manirakiza a joint à Ouagadougou le journaliste Séni Dabo.
C'est la première fois qu'il y a des sanctions de ce type au niveau de la magistrature. C'est qu'on a globalement qualifié de manquement à l'éthique et à la déontologie. À l'intérieur, vous retrouvez beaucoup plus de faits de corruption. Ils sont reprochés à 37 magistrats au total.
Et comment ce conseil a-t-il déterminé les faits qui sont reprochés à ces magistrats?
Le conseil a travaillé sur la base d'un rapport d'une commission d'enquête qui a été mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature, laquelle commission fait suite à un certain nombre d'accusations portées contre des magistrats pour des faits de corruption par des justiciables qui estiment qu'à un moment donné, leur cause n'a pas été vraiment bien entendue au niveau de la justice et qui se sont retournés pour la plupart vers la presse pour dénoncer cet état de fait. Comme commencé à prendre beaucoup d'ampleur parce que le Conseil supérieur, la Massé, a estimé qu'il y a quand même lieu d'investiguer, de voir c'est avec quoi tout cela retourne. Et cette commission d'enquête-là a été mise en place pour, comme on le dit, pour reprendre une terminologie officielle, assainir le milieu.
Et comment l'opinion pour Kinabé perçoit cette mesure?
Il y a beaucoup quand même qui apprécient ce qu'on a appelé une opération de salubrité publique. Ça a commencé même sous le régime de Blaise Compaoré avant l'insurrection. Ça s'est poursuivi sous la transition et sous le régime actuel de M. Compaoré. Il dit que un milieu qui est beaucoup corrompu, il ne fait pas beaucoup son travail. Il y a des dossiers emblématiques qui sont pendant depuis belles lettres devant cette justice en question. Donc, on se rappelle, par exemple, le dossier de Thomas Sankara, le dossier de Norbert Zongo et tout récemment, le dossier de l'insurrection du coup d'État manqué de septembre 2015.
Est-ce que les magistrats sanctionnés pourront éventuellement faire recours au...
Ah oui, bien sûr. Les sanctions qui ont été prises sont susceptibles de recours par les intéressés. Ils estiment que vraiment leur cause n'a pas été bien entendue. Pas de sanctions définitives.
C'était notre confrère Séni Dabo, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Coupe du monde de football Russie 2018 démarre jeudi, donc demain. Le continent africain est représenté par 5 équipes, dont le Sénégal, un pays qui a vu la création ces dernières années de centres de formation comme Génération Foot. 3 de ses expansionnaires sont dans l'équipe sénégalaise. Parmi eux, la star Sadio Mané, faisant la fierté de tout le centre. Reportage à Dakar, Abdourahman Dia.
Une séance d'entraînement pour des jeunes qui aspirent à suivre les pas de grands noms du football sénégalais qui, il y a quelques années seulement, étaient passés par ce même centre. Des jeunes rêveurs et motivés à devenir footballeurs professionnels et porter un jour le maillot national. Amadi Lamine Conté, 21 ans, est à Génération Foot depuis 4 ans.
Si on voit certains joueurs qui étaient ici et jouer à la Coupe du Monde, ça nous fait une fierté parce qu'on a eu à côtoyer certains joueurs comme Ismaël Sarr qui était ici avec nous. Donc si on le voit jouer jusqu'à marquer des buts en équipe nationale, je peux dire que c'est notre fierté, quoi.
Un rêve porté par Madi Touré, le fondateur de Génération Foot, en partenariat avec le club français du FC Metz.
Quand on prend ces jeunes à bas âge, qu'à la sortie, ils réussissent, ça peut que nous faire plaisir et une motivation supplémentaire. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire est un bon travail. Et nous voulons continuer à sortir des gens comme Sadio Mané, mais plus fort que Sadio Mané.
Le centre accueille aujourd'hui 120 pensionnaires qui allient études et sport. Et pour le formateur Abdoulaye Sarr, le football sénégalais devra désormais compter avec ses académies.
Aujourd'hui, il faut dire que quand on voit la configuration de notre équipe nationale pour Russie 2018, mais nous voyons exactement que c'est des jeunes, pour la plupart, nés ici. Même s'il y a des Sénégalais nés à l'étranger, surtout en France, mais la part de jeunes formés au Sénégal, nés au Sénégal, à cette part domine largement dans l'effectif qu'il y a. C'est le travail des clubs, mais aussi des centres de formation qui, depuis quelques années, sont installés ici.
Et le manager général, Olivier Perrin, voit même une amélioration des conditions depuis la création du centre.
Quand j'ai reçu Sadio Mané à Metz et Diafa Sakho, ils n'ont pas travaillé sur ces structures ici. Et ces garçons-là ont été obligés de faire un an et demi de centre de formation avant de pouvoir postuler à jouer en professionnel. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qu'on envoie aujourd'hui qui vont directement en professionnel et qui sont beaucoup plus prêts à partir. Voilà.
Ces jeunes footballeurs vont donc suivre cette Coupe du Monde dans l'espoir d'être un jour à la place de ceux qui les ont précédés au centre. Abdourahman Dia, Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, la chanteuse noire velours est une artiste assez atypique pour le paysage culturel de Lomé, la capitale. Car non contente de chanter avec ses tripes et une voix entraînante, la jeune femme déploie une belle énergie afin de magnifier l'Afrique et dire non au racisme lié à la peau noire. Christelle Mensa est allée à sa rencontre. Black is good, black is fine,
black is Christelle Anoumou née en France en 1992. Lorsqu'elle était enfant, elle s'est toujours posé des questions sur sa peau noire. Aujourd'hui, en tant que noire velours, son nom de scène, la chanteuse bénino-togolaise exorcise ses blessures liées au racisme.
Ayant vécu à l'étranger, j'ai vécu le racisme. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je rentre parmi les miens, je serai safe. Mais en fait, c'est faux. Quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait une discrimination par rapport à la teinte de la couleur de peau. Les personnes plus claires semblaient favorisées. Et ça m'a beaucoup choquée. Je me suis dit qu'il fallait réveiller les consciences.
Son dernier morceau clippé, Black Is, sonne comme un cri d'amour au sien. De retour en Afrique, elle partage ses premières scènes avec sa tante au Bénin avant de venir vivre au Togo en 2016. Selon une récente étude de l'OMS, 59% des femmes togolaises se dépigmentent la peau. Déterminée à changer cela, la jeune femme de 26 ans a sillonné les rues de Lomé pour interroger la population sur les discriminations liées à la peau noire.
Les femmes noires se sentent complexées par rapport à leur couleur de peau parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de femmes foncées qui me disaient « Ah, j'aimerais trop avoir ton teint est super beau et tout. » Et on ne me considère pas comme africaine, comme noire. Et quand je, justement, après Blackies, on me demande « Ah, mais en fait, t'es claire. Pourquoi tu as chanté Blackies ?» Je dis « Mais je suis black. »
Son futur projet, Remets ta couronne, revalorise l'identité noire à travers une chorégraphie et un texte. Plus jeune, Noir Velours est allé à la rencontre de son histoire en s'intéressant au royaume du Dahomey.
J'ai trouvé ça tellement enrichissant par rapport aux rituels qu'on avait avant, par rapport à la culture, par rapport à comment la vie se déroulait à l'époque.
Avec sa musique et sa voix qui porte, Noir Velours s'adresse à tous pour que cesse le racisme lié à la peau noire.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Black is white, black is cool, black is beautiful, black is old, black is white.
C'est la couleur de la pauvreté, la guerre et même la corruption, la maladie aussi. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille dans ce monde où plus t'es clair, plus t'es bonne? Ça doit être vrai vu que la télé l'a dit. Faut Instagram et puis Facebook aussi. Et ils ont failli arriver, ils ont failli nous faire oublier que pour des belles si belles, que pour des belles sirènes.
Black is blue, black is black.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jonah Cummings. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.